VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Au micro, Morgane Guirguec pour ce bulletin d'information. Un Néerlandais détenu au Mali par le groupe islamiste ACMI a été libéré aujourd'hui par des soldats des forces spéciales françaises lors d'une opération dans l'extrême nord du pays. C'est ce qu'annonce le ministère français de la Défense. L'otage néerlandais Jacques Richquet est maintenant libre. Cette action de combat a permis la capture de plusieurs individus, précise le ministère de la Défense dans un communiqué. La réaction du Kenya n'a pas tardé et quelques jours après l'attaque de l'université de Garissa, les forces kenyanes ont mené des frappes aériennes contre des positions d'Al-Shabaab en Somalie voisine. Les détails avec Bagassi Koura.
L'aviation kenyane a frappé dimanche deux camps dans la région de Gedo, située au sud de la Somalie. Aucun bilan immédiat sur les pertes ou les dommages causés par ces frappes. Al-Shabaab a mené plusieurs attaques au Kenya au cours des dernières années. La dernière en date est celle contre l'université de Garissa, proche de la frontière somalienne. Une attaque qui a fait 148 morts et Al-Shabaab promet d'autres actions à moins que le gouvernement kenyan retire ses troupes de la force africaine engagée contre les islamistes en Somalie. À Garissa, les forces de sécurité ont combattu les militants pendant 15 heures et ont sauvé plus de 500 étudiants. Mais plusieurs journaux kenyans ont critiqué ce qu'ils ont décrit comme une réponse lente du gouvernement. L'AFP rapporte qu'il a fallu 7 heures aux forces spéciales kenyanes pour arriver sur le site.
Lutte contre Boko Haram. Malgré une baisse des attaques, les autorités camerounaises accusent des membres présumés de l'organisation djihadiste nigériane de racketter les agriculteurs et éleveurs, dont beaucoup ont été relocalisés loin de la frontière. Idriss Fall.
Selon Midi Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, des hommes armés opérant par groupes de 5 à 10 personnes accaparent le bétail, la nourriture et l'argent des habitants le long de la frontière avec l'état de Borno au Nigeria.
La frontière est longue et poreuse. Et cette question, nous le mettons sur le compte l'approvisionnement en termes de petits bétails et autres aliments. Et s'ils viennent casser quelques magasins, ils viennent également peut-être détruire quelques greniers. Mais ça, ce n'est pas des attaques en tant que telles. Ça vise tout simplement le ravitaillement. Et c'est pour dire qu'ils sont vraiment dos au mur et qu'ils cherchent, ça c'est des institutions qui visent tout simplement la sauvegarde de leur de l'espèce.
Ceux qui refusent de se soumettre à ce racket sont simplement tués, selon Sali Daïrou, originaire du Nord et député à l'Assemblée nationale du Cameroun.
Les bœufs se sont retrouvés en divagation. Personne ne pouvait aller là-bas et ça fait des milliards que nos populations ont donc perdu.
Boko Haram n'a pas mené d'attaque d'envergure depuis plus de deux mois. Pour le gouverneur Midi Yawa, c'est un signe des difficultés qu'ont les islamistes à se regrouper face à l'offensive des forces sous et il ne donne plus beaucoup de temps à vivre aux djihadistes nigériens.
Nouvelle violence attribuée à Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Des membres présumés du groupe islamiste ont attaqué un village hier soir. D'après des témoignages rapportés par l'AFP, les assaillants ont ordonné aux villageois de sortir de chez eux avant d'ouvrir le feu sur la population et incendier des maisons. Le bilan pourrait dépasser la vingtaine de morts. On apprend aujourd'hui par ailleurs qu'une attaque a fait 7 morts vendredi au Tchad. L'embuscade attribuée à Boko Haram visait des civils qui se rendaient au marché de Tchoukoutélia, près du lac Tchad. Certaines victimes ont été égorgées, d'autres tuées par balles, indique le sous-préfet de Bagassola, cité par l'AFP. Des engins explosifs artisanaux ont été découverts dans les alentours après l'attaque. Querelle politique au Burkina Faso. Le parti fondé par Blaise Compaoré met en garde. Il s'opposera vigoureusement au projet de loi qui prévoit d'exclure les proches du président déchu des élections d'octobre. Le texte qui doit être voté demain prévoit d'exclure de toutes les élections tous les membres du dernier gouvernement du président Compaoré et toute personne qui a soutenu ouvertement ou publiquement la modification de l'article 37 de la Constitution, fixant à 2 le nombre maximum de mandats présidentiels. Le Congrès pour la démocratie et le progrès ne pourra faire barrage à ce texte car l'ancienne majorité ne compte que 10 députés sur les 90 de l'Assemblée intérimaire du CMT. Mais des appels à manifester demain ont été lancés par des organisations de la société civile soutenant M. Compaoré, précise l'AFP. Le Burundi obtient un rappel du représentant de l'Union africaine à Bujumbura. Le départ de Boubacar Diarra aurait été motivé par son rôle dans les objections internationales à un nouveau mandat du président burundais. Pierre Nkurunziza le trouvait gênant, notamment sur la question de son troisième mandat, a expliqué à l'AFP un diplomate de l'Union africaine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le reste du monde, l'Arabie saoudite cherche à étoffer sa coalition contre les rebelles houthis alors que de violents combats se poursuivent au Yémen. Riyad a demandé au Pakistan de fournir des troupes terrestres, des avions et des navires de guerre à l'offensive contre les rebelles yéménites soutenus par l'Iran. Les précisions de Timothée Donongmaï.
Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Mohammad Asif, a fait état de la requête saoudienne lors d'un débat au Parlement sur le Yémen. L'offensive menée par l'Arabie saoudite au Yémen, avec l'appui de divers pays, a débuté le mois dernier avec pour objectif de rétablir au pouvoir Abdrabu Mansour Hadi, le président reconnu par la communauté internationale. Islamabad a promis un soutien général à ses efforts, mais n'a pas pris d'engagement spécifique. Sur le terrain, de violents combats se poursuivent dans le sud du Yémen et ont fait une centaine de morts ces dernières 24 heures selon différentes sources que cite l'AFP. Le Comité international de la Croix-Rouge se dit dans l'incapacité d'envoyer de l'aide humanitaire, faisant état de difficultés logistiques. C'est dans ce contexte qu'un avion russe a évacué du Yémen 159 personnes, y compris 47 ressortissants russes, rapporte l'agence de presse Interfax.
Le président Barack Obama estime que l'accord cadre sur le nucléaire iranien est jusqu'ici le meilleur pari que l'on puisse faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. Dans une interview postée hier par le New York Times, M. Obama a dit que continuer simplement les sanctions contre Téhéran laisserait le monde avec moins d'informations sur le programme nucléaire iranien. Il a ajouté que des frappes militaires ne causeraient que des revers temporaires qui presque certainement pousserait les Iraniens à se précipiter vers l'acquisition d'armes nucléaires. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a encore soutenu hier à la télévision qu'il s'agit d'un mauvais accord qui permettra à Téhéran d'obtenir de telles armes. En Irak, le Premier ministre Haider al-Abadi se promet de travailler avec les autorités kurdes pour libérer la province septentrionale de Ninive aux mains des militants du groupe État islamique. Intervenant aujourd'hui à Erbil, capitale de la région semi-autonome du Kurdistan, M. Abadi a déclaré que les deux gouvernements font face à un ennemi commun. Massoud Barzani, président du Kurdistan, a annoncé que les deux parties vont créer une commission d'experts militaires et sécuritaires pour mettre en œuvre cette collaboration. Les combattants islamistes ont enlevé aujourd'hui quelques 300 civils kurdes à un point de contrôle dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. C'est ce qu'ont indiqué des sources kurdes à l'AFP. Il n'était pas immédiatement clair quel groupe était derrière ce rapt, même si des responsables kurdes ont accusé les djihadistes du front al-Nusra, très actifs dans la province d'Idleb, ou alliés à d'autres groupes islamistes. Ils combattent notamment le régime. Et à Boston, procureurs et avocats de la défense présentent leur déclaration conclusive au procès de Zohar Tsarnaev, jugé pour son implication dans les attentats à la bombe au marathon du 15 avril 2013. Cette attaque avait fait 3 morts dans cette ville du Massachusetts. Tsarnaev est également accusé du meurtre d'un policier 3 jours après. Il s'agit de savoir si Tsarnaev va recevoir la peine de mort, si le jury le trouve coupable, il devra ensuite décider de sa sentence. Les avocats de Tsarnaev soutiennent qu'il a été seulement victime de l'influence maléfique de son grand-père, Tamerlan.